Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Bertie Bourdon, mais aussi Hélène Lefrançois, Margot Leridon, Rosalie Suc, réalisée par Vincent Abouchard et mise en onde ce matin par Pierrick Monsigny. Nouvelle série consacrée ce matin à l'intervention, au désengagement, parce que dans l'interventionnisme, il y a l'intervention et puis il y a le retrait. Si on a beaucoup critiqué, souvent à juste titre, l'intervention, trop souvent synonyme d'ingérence, il faut aussi se concentrer sur les conséquences du désengagement, une double peine pour les populations qui ont vécu l'intervention de forces étrangères sur leur territoire. Alors avant de nous concentrer demain sur l'Irak, mercredi la Syrie, enfin jeudi la Libye, arrêtons-nous aujourd'hui sur le cas de l'Afghanistan.
Our brave troops have now been fighting in the Middle East.
Nos braves troupes combattent au Moyen-Orient depuis maintenant près de 19 ans. En Afghanistan et en Irak, près de 7 000 de nos héros américains ont donné leur vie et plus de 52 000 Américains ont été gravement blessés.
More than 52,000 Americans have been badly wounded.
Nous avons dépensé plus de 7 milliards de dollars pour la guerre au Moyen-Orient. En tant que candidat à la présidence, j'ai lourdement plaidé pour une nouvelle approche. Une grande nation ne doit pas se battre pour des guerres sans fin. En Afghanistan, mon administration a établi un dialogue constructif avec de nombreux groupes afghans, incluant les talibans. En progressant dans ces négociations, cela nous permet de réduire la présence de nos troupes et de nous concentrer sur le contre-terrorisme. Et nous devons en effet nous concentrer sur le contre-terrorisme.
Voilà, extrait du discours de Donald Trump au début de l'année, discours sur l'état de l'Union dans lequel il expliquait que les États-Unis étaient une grande nation mais qu'elle ne pouvait poursuivre des guerres sans fin. Et puis il évoquait aussi, évidemment, on l'a entendu, le cas de l'Afghanistan. Dix-huit ans après la guerre contre le terrorisme déclarée par l'administration Bush à la suite des attentats du 11 septembre 2001 et l'intervention en Afghanistan visant à chasser les talibans, la situation sur place est très loin d'être pacifiée. En effet, la semaine dernière, l'ONU publiait un rapport faisant état d'une augmentation du nombre de victimes de 42% le dernier trimestre par rapport à l'année précédente, ce qui en fait le trimestre le plus meurtrier depuis 10 ans. Cette aggravation de la violence avait lieu alors que des pourparlers entre l'administration américaine et les talibans se tenaient à Doha et alors qu'on a pensé pendant un temps qu'il pourrait aboutir à un accord, comme l'avait laissé entendre l'émissaire américain d'Allemagne Khalilzad. Donald Trump a finalement annoncé la suspension du dialogue à la suite d'un attentat à Kaboul. Alors comment comprendre cette accélération de la violence? Jusqu'où peut-on la corréler à l'ambition américaine de retirer ses forces? Et d'ailleurs, comment pourrait s'organiser le désengagement et quelles en seraient les conséquences? Après le drame de l'intervention, faut-il se préparer au drame du retrait? Bonjour Gilles de Ronsoro.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous connaissez très bien l'Afghanistan. Vous connaissez également beaucoup la Syrie, dont on parlera cette semaine, puisque vous aviez coécrit très récemment Syrie, anatomie d'une guerre civile aux éditions du CNRS. C'est l'Afghanistan qui va nous intéresser ce matin. Je le disais, le mois dernier, la semaine dernière même, l'ONU a publié un rapport faisant état d'une accélération des violences. Ces derniers mois d'ailleurs, sans ces chiffres-là, on a bien vu que les attentats s'étaient considérablement multipliés, même jusque dans la capitale Kaboul. Tout cela a lieu dans un contexte général de retour en force des talibans qui contrôleraient aujourd'hui, j'utilise le conditionnel, à peu près un tiers du territoire, parce qu'en fait on a arrêté de compter tellement c'est dramatique. Donc les États-Unis ont arrêté de compter, c'est le plus facile, on casse le thermomètre, comme ça c'est terminé, il n'y a plus de maladie. À quoi faut-il imputer, Gilles de Ronsoro, ce regain de violence? Est-ce que c'était une manière pour les insurgés de mettre la pression sur l'administration américaine qui était en pleine négociation avec cette délégation talibane au Qatar?
Alors, je crois que c'est pas tellement un regain, c'est une montée continue dans la violence depuis 2014, c'est-à-dire depuis le moment où les Américains sont partis. Plus précisément sur les pertes civiles, il y a deux choses qui m'inquiètent personnellement. C'est premièrement le nombre de victimes civiles, ce qui est intrinsèquement dangereux, alors une tragédie individuelle, collective, et aussi dangereux parce que ça accroît des tensions sociales. Et le deuxième aspect, c'est que jusque-là, les pertes civiles étaient d'abord le résultat des actions des talibans, notamment les mines sur les routes, les attentats à Kaboul, dans les villes. Et aujourd'hui, on a une, d'après les chiffres de l'ONU, hein, on a un changement qui est inquiétant, c'est le fait que les pertes civiles sont de plus en plus dues aux frappes américaines. Donc on est passé de 3/4 de pertes civiles imputables aux talibans, traditionnellement, j'allais dire, il y a quelques années. Aujourd'hui, la proportion s'est pratiquement inversée. Alors pourquoi ?
Ça, c'est une nouveauté, ça ? Les chiffres sont incroyables. Effectivement, chiffre d'avril dernier, donc rapport de l'ONU qui indiquait que sur le premier trimestre 2019, les forces américaines et afghanes avaient tué donc 305 civils pour les forces américaines et afghanes contre 226 du côté des talibans et autres groupes d'insurgés.
Oui, pourquoi ? Et encore, les autres groupes d'insurgés, ils font lever l'État islamique qui a une politique vraiment de ciblage des civils. Hein. C'est une politique aussi d'extermination des chiites. Enfin, c'est quelque chose de plus compliqué. Mais pour revenir aux talibans qui sont la principale force d'opposition, les talibans ont finalement, plutôt pour des raisons politiques, limiter les attaques directes contre les civils en dehors des gros attentats à Kaboul. On pourra y revenir. Et les Américains ont un problème, c'est qu'ils ont de moins en moins d'informations au sol. Et donc leurs frappes de drones qui sont beaucoup intensifiées, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui à un niveau de frappe équivalent de ce qu'on faisait il y a 10 ans quand on était au maximum de l'offensive militaire.
On a plus de 7000 bombes par an là sur...
Oui, c'est absolument les chiffres sont absolument extraordinaires et évidemment avec moins de troupes, enfin quasiment pas de troupes au sol et un système de renseignement donc qui est moins bon, on a de plus en plus de dommages collatéraux, comme disaient les militaires. Donc cette évolution-là est effectivement inquiétante parce que ça amène déjà un rejet par la population des frappes aériennes américaines.
Mais pourquoi, Gilles de Ronceau, puisqu'on a moins d'informations, il suffirait de moins frapper? Qu'est-ce qui se passerait si les États-Unis frappaient moins?
Ce qui se passerait, autant qu'on puisse le deviner, parce que de moins en moins, on a de moins en moins d'informations, c'est que on a un risque d'effondrement militaire du régime. Voilà. Il faut voir que les États-Unis avaient fait un gros effort de formation et de financement de l'armée afghane pour préparer leur retrait. Leur désengagement qui a pas été total, hein, puisqu'il reste encore des troupes américaines, mais qui a été très très avancé. Et à partir de ce moment-là, ce qu'on a vu malheureusement, c'est un effondrement progressif des forces de sécurité afghanes, avec un taux d'attrition très fort. Aujourd'hui, même si les chiffres sont plus publiés, on peut penser que le taux d'attrition est d'un tiers. C'est-à-dire qu'il faudrait l'armée afghane, il y a un tiers de l'armée afghane qui disparaît par désertion, non-réengagement, blessés, etc. tous les ans. Donc ça veut dire que on est dans une armée qui est à la limite de l'effondrement. Et s'il n'y avait pas cet effort aérien très très déterminé des États-Unis, on aurait un risque, c'est non seulement de voir des villes tomber, hein, comme ça s'est vu ces dernières années, mais aussi d'un effondrement plus général
du régime
système,
entier.
Du régime ouais. entier. Voilà.
Les chiffres là aussi sont absolument incroyables. Hein. Gilles de Ronceau, il avait été donné par le président afghan lui-même en janvier dernier. Visiblement, depuis la fin de l'opération de l'OTAN, ce sont 45 000 membres de forces de sécurité afghanes qui ont été tués. C'est une véritable hécatombe. Comment expliquer ce désastre ? Parce que effectivement, Gilles de Ronceau, il y a eu un moment où les Américains ont voulu organiser le désengagement. On a eu ce processus qu'on a appelé d'afghanisation, exactement comme il y avait eu le processus de vietnamisation à l'époque quand on était sorti du Vietnam. Donc on enclenche ça en 2011. On prévoit que tout cela est bien en place à la fin 2014, au moment où l'OTAN s'en va. Pourquoi un tel désastre ? Pourquoi ça n'a pas marché ?
Alors ça n'a pas marché. On a une idée assez claire pourquoi ça n'a pas marché. Hein. Le premier élément, c'est le niveau de corruption très fort à l'intérieur de tout le régime afghan, mais spécifiquement à l'intérieur de l'armée, notamment sur tout ce qui est logistique. Hein. Donc là, on a un financement relativement important, mais en fait sur le terrain, peu de choses se voient parce qu'il y a beaucoup d'argent qui est détourné, notamment au sein du ministère de la Défense afghan. Donc ça, c'est un élément structurel, on le sait. Bon, il y a un deuxième élément qui est que l'effort de formation n'a pas été suffisant et ce qu'on a vu après 2014, c'est progressivement des forces afghanes moins bien entraînées, recrutées aussi avec de plus en plus de difficultés en raison des pertes, hein, et un phénomène de déprofessionnalisation de l'armée afghane. Alors il y a quelques forces qui résistent bien, qui sont extrêmement efficaces, hein, les forces spéciales afghanes, pour faire simple, mais ça ne suffit pas, et surtout on en arrive à utiliser les forces spéciales afghanes pour des opérations que normalement elles ne devraient pas réaliser, c'est-à-dire des opérations qui devraient revenir à l'armée afghane régulière. Donc, ce qu'on a aussi en parallèle qui explique cette désintégration, c'est l'effort de professionnalisation des talibans. Une des erreurs majeures de l'OTAN, enfin de surtout des Américains, ça a été de considérer que les talibans étaient une force un peu moyenâgeuse, très régressive, etc. Ce qui peut être vrai sur le plan politique, mais qui n'est pas du tout vrai sur le plan militaire. C'est-à-dire que on a, depuis quelques années, l'apparition de vraies troupes de choc des talibans, équipés avec des... Alors, les armes sont en partie données par la Russie, d'ailleurs. Avec des équipements de nuit, pour combattre de nuit. C'est des forces vraiment d'assaut, de choc, qui sont extrêmement efficaces. Et là, on est véritablement devant une armée régulière afghane qui, finalement, est surclassée techniquement, militairement, par les talibans. Et ça, ouais, évidemment, c'est extrêmement inquiétant.
Qui paye pour ça?
Alors, les talibans sont soutenus. Alors, comme je vous le disais, bon, il y a des armes qui viennent de Russie.
Il faut bien les payer, les armes.
Non, dans ce cas-là, non, c'est plutôt...
Pas forcément.
Non, pas forcément les armes.
Elles peuvent être de plus, gentiment cédées.
Oui, vous avez un pays qui est saturé en armement. Ce qui est plus cher, c'est les munitions plus que les armes, en fait. Et là, les talibans sont pas les principaux bénéficiaires du trafic de drogue, mais ils en bénéficient. Il y a des formes d'imposition locale. Il y a un soutien du Pakistan qui est important, même si c'est difficile à mesurer. Donc finalement, c'est une insurrection qui revient pas extrêmement cher. Parce que bon, les gens sont peu payés, pas payés. Les gens qui combattent sont peu payés, pas payés. Donc finalement, j'allais dire que c'est un très bon rendement en termes d'investissement, de retour sur investissement pour les gens qui soutiennent les talibans. Ça peut être des grands commerçants, ça peut être des pays du Golfe aussi, des financements privés du Golfe. Ça peut être le Pakistan, ça peut être la Russie ponctuellement, etc.
Vous parlez là des talibans, mais on sait aussi, on le décrit depuis des mois, qu'il y a une montée en puissance de l'État islamique, de Daesh, de groupes plus ou moins affiliés qui s'en revendiquent. Est-ce qu'on a un tout petit peu une idée du rapport de force entre les talibans d'un côté, les groupes affiliés à Daesh, à Al-Qaïda de l'autre, et est-ce qu'aujourd'hui, comment est-ce que ça s'articule aujourd'hui? Bon, pour l'instant, évidemment, il y a un ennemi commun qui est le pouvoir central, il y a les soldats américains, évidemment, tout ça fait que ça doit créer une forme de ciment entre tous ces groupes. Mais qu'en sera-t-il si demain, le pouvoir tombe, les soldats américains sont partis
Alors, d'abord, la première chose à préciser, c'est l'ironie de la situation, c'est-à-dire que au moment où les Occidentaux se désengagent de l'Afghanistan, donc en 2014, c'est le moment où l'État islamique, dans sa forme locale, donc l'État islamique du Khorasan, donc sur la frontière afghano-pakistanaise, se forme. Donc, vous voyez, si l'idée c'est de se retirer parce qu'on a fait le travail et qu'on a éliminé les groupes djihadistes transnationaux, c'est un tout petit peu raté, surtout qu'au même moment, Al-Qaïda, de manière là avérée, se renforce de manière spectaculaire en Afghanistan. Donc on se retire en fait au moment où les groupes djihadistes se renforcent. Bon, ça c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que les premiers ennemis de l'État islamique en Afghanistan, ce sont les talibans. Donc dès que, et eux, ils ont tout de suite perçu le danger. C'est un problème de concurrence et de monopole. Donc, dès que vous avez l'apparition des premiers groupes de l'État islamique au sud de Jalalabad, donc sur la frontière pakistanaise, les talibans immédiatement mettent en place un effort massif pour les éliminer. Donc, on a des combats extrêmement durs, sans pitié. Et malheureusement, en un sens, en tout cas du point de vue occidental, les talibans n'arrivent pas à éliminer l'État islamique. Et donc l'État islamique continue à tenir un certain nombre de districts sur la frontière. Et ce qui est encore plus inquiétant, ces dernières années, ils ont fait une percée dans le nord, dans plusieurs provinces du nord. Et on a régulièrement des petits groupes qui apparaissent. Donc l'État islamique s'est véritablement enquisté. Et alors, On est maintenant dans un jeu triangulaire. Le régime, les talibans, l'État islamique, chacun combat l'autre ou les autres selon les contextes régionaux. Le rapport de force, bon, on évalue l'État islamique à quelques milliers de combattants, les chiffres varient de 2 à 5 selon les sources. Bon. Et du côté des talibans, on est là devant quelque chose qui est beaucoup plus lourd, beaucoup plus national aussi. On a des dizaines de milliers d'hommes d'étalement mobilisables. Voilà.
Mais alors, si on était cynique, Gilles de Ronsoro, on pourrait se dire, après tout, laissons tomber le régime afghan qui, de toute façon, n'est absolument pas efficace. Laissons les talibans revenir au pouvoir. Ils vont se débarrasser des groupes, justement, affiliés à Daesh, à Al-Qaïda, etc., etc. Après tout, ça pourrait être un calcul de l'administration américaine.
Bah, ça a été le calcul de l'administration américaine, en fait.
Au point de laisser tomber le régime afghan ?
Ah oui, très clairement. Ça a été tout ce que... Enfin, le Khalilzad, donc, était le négociateur d'origine afghane, mais c'était le négociateur...
Émissaire américain,
ouais. Voilà, l'ancien ambassadeur américain à Kaboul, et le négociateur choisi par le président Trump. Et sa feuille de route était très claire. On se retire, on ne met pas le gouvernement afghan... donc le président Ashraf Ghani, dans la négociation, négocie strictement, enfin, en tête-à-tête avec les talibans, et le deal est très clair, vous faites ce que vous voulez en Afghanistan, mais on ne veut pas entendre parler d'Al-Qaïda et de l'État islamique. Voilà, c'était ça le deal. Le problème, c'est qu'il n'y avait aucun moyen de contrôler, effectivement, que les talibans respecteraient le deal une fois les Américains partis. Ça, c'est un problème. Alors, autant avec l'État islamique, on sait que les rapports sont structurellement conflictuels, mais avec Al-Qaïda, ça pose un véritable problème de contrôle. Donc, oui, ça a été le pari. Et on est arrivé à un point où la négociation était, en théorie, achevée.
Ouais, et on se souvient de l'émissaire qui intervient à la télévision. Il dit même on a un préaccord.
Ah ben, on avait plus qu'un préaccord, puisque les talibans étaient la première version du plan Trump. C'était d'inviter les talibans pour le 11 septembre à Camp David. Ce qui est politiquement un peu compliqué. En tout cas, ça avait été annulé. Et finalement, Trump, pour des raisons... que vous allez probablement demander d'expliquer et que je ne peux pas expliquer, a donc écrit un de ses fameux tweets et a décidé que les négociations étaient mortes, dead. Voilà, on en est là. Et aujourd'hui, parce que la situation sur le terrain n'a pas changé, on est probablement en train de revenir à une forme modifiée de cet accord, puisque Mark Esper, donc le ministre de la Défense américain, était à Kaboul, et que aussi on a, ce qui est en train de compliquer le jeu, Nancy Pelosi, qui a fait une mission, enfin, à la tête d'une délégation de la Chambre des représentants, a fait une mission secrète à Kaboul. Donc là, on repart...
Les négociations ont repris.
Alors, pas techniquement, il s'agit d'une prise de... Khalilzad a vu des talibans au Pakistan, il s'agit d'une prise de contact. Parce qu'en fait, les négociations sont faites sur le fond. Il pourrait, à mon avis, y avoir que des modifications assez marginales. Probablement, ce qu'essaye d'obtenir Nancy Pelosi, qui est en train, en fait, de monter une diplomatie pratiquement parallèle sur ce dossier-là, c'est d'obtenir qu'il y ait un peu plus de représentants de ce qu'on appelle la société civile, notamment des femmes, à la table de négociation pour obtenir peut-être quelques garanties sur la société afghane post-intervention américaine. Voilà.
Et qu'est-ce qu'on prévoit du côté américain? Des engagements totaux? Il y a aujourd'hui à peu près quoi, 14 000 soldats ou forces américaines, parce qu'il y a aussi les acteurs privés
voilà,
en Afghanistan.
On a aussi,
14 000 à peu près, et l'objectif c'était quoi? De rapatrier dans les 3-4 mois là, 5 400 hommes, c'était ça?
Voilà, alors après il y a eu plusieurs versions qui ont circulé. Les talibans, eux, ne veulent pas le maintien de bases américaines, et ils ont probablement le soutien des Pakistanais, puisque les Pakistanais sont les parrains des talibans, évidemment. On a probablement aussi cette position pakistanaise, même de façon plus ambiguë. Donc, le vrai problème, c'est le calendrier du retrait. Et le calendrier du retrait, finalement, il est conditionné à l'ouverture des négociations inter-afghanes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a ouverture des négociations inter-afghanes, les Américains se retirent progressivement. Évidemment, le piège, c'est que l'ouverture, c'est pas la conclusion, et que s'il y a conclusion d'un accord, il y a très peu de chances qu'il soit respecté. On n'a pas historiquement, ces dernières décennies, beaucoup d'exemples où une guerre civile se termine de façon positive, pacifiée, par un accord entre des belligérants, ce qui supposerait notamment une fusion, soit un désarmement des talibans, soit une fusion des talibans dans l'armée nationale. Franchement, c'est un, surtout dans le contexte régional afghan, c'est quelque chose qui paraît extrêmement difficile à obtenir. Bon, voilà, donc clairement, il s'agissait de la part des Américains de lancer un processus de négociation inter-afghan et surtout de partir.
Et qu'est-ce qu'ils ont en main, Gilles de Ronsoro, les Américains, là? Ils ont quoi comme levier? On a l'impression, en réalité, que ce dont on parle là, sur les négociations, c'est en gros, on est en train de discuter les modalités du désengagement américain, on est en train de regarder comment se passe la capitulation américaine, en fait, rien d'autre.
Oui. Non, je suis assez d'accord avec ce... d'accord. avec
bon,
ça.
Moi, c'est clair.
Alors, il faut voir que... Alors, le problème, c'est que les négociations ont été lancées très tard.
Raison peut-être pour laquelle, d'ailleurs, Donald Trump reste. C'est-à-dire que ça, l'idée, justement, d'être le président qui a capitulé en Afghanistan, lui, est insupportable.
Oui et non, parce que il faut voir qu'il y a toujours une hystérésis, donc il y a un délai quelque part entre la décision et ce qui va se passer. Le problème de Trump, c'est sa réélection. Donc il y a peu de chances que la situation s'effondre avant la réélection. C'est ça le problème de Trump. Deuxièmement, la base américaine, ce qu'on a vu pour
S'il laisse des soldats. Parce que s'il ramène les boys avant la réélection, il y a un vrai risque politique. D'autant qu'on imagine l'effet dévastateur potentiellement de talibans qui reprendraient des bases américaines avec du matériel américain, etc. On imagine un tout petit peu ce que ça pourrait avoir comme effet.
Là, il peut compter probablement sur un accord avec les talibans pour différer ça après l'élection. Là, il y a des façons d'obtenir effectivement un effondrement après. Et puis la base républicaine de Trump, finalement sur la Syrie, elle est plutôt d'accord. Il y a un vrai courant isolationniste aux États-Unis qu'on n'avait pas vu sous cette forme et exprimé politiquement probablement depuis les années 30. Mmh. Donc c'est un changement radical. Hein. Mmh. Et même chez les candidats démocrates, on a une volonté de retrait d'Afghanistan. Hein. Elizabeth Warren, bon, c'est plus compliqué pour Biden qui a été très intimement mêlé à la politique américaine sous Obama évidemment et la politique afghane en particulier, mais Elizabeth Warren est pour un retrait. L'ensemble des candidats. Alors, je parle même pas de Sanders, qui est évidemment pour un retrait. Donc, on n'a pas de.
Il y a un consensus en réalité.
Il y a un vrai consensus. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, on aurait pu mobiliser sur la société afghane, la domination masculine, etc. Le sort fait aux femmes afghanes. Aujourd'hui, franchement, ça fonctionne plus. Et même dans la société française, ça fonctionne plus. Il faut voir qu'on est. Ça, c'est un élément central pour les décideurs, dans un mouvement de toutes les opinions publiques occidentales, qui est un mouvement de repli identitaire. Vous gazez la population syrienne, il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Et pourtant, là, les journalistes ont fait un bon boulot d'explication. Encore, on a des preuves. Bon, il ne se passe rien. Donc ça donne une extraordinaire liberté de manœuvre aux décideurs.
Vous faites référence, j'imagine, à la fameuse ligne rouge d'Obama en Syrie, quand il avait dit si l'utilisation des armes chimiques il y a du côté du régime, alors réaction américaine il y aura.
Oui, et là, c'est
même si vous avez raison, il n'empêche que ce qui a fait aussi qu'Obama n'est pas intervenu, c'est parce que les Russes sont entrés dans la danse, proposant leurs services pour participer d'un grand processus de désarmement, en tout cas s'agissant des armes nucléaires du territoire syrien, et qu'ils se sont fait duper.
Oui et non, parce que si vous regardez la chronologie de façon plus précise, bon, puis c'est aussi ce qu'on sait maintenant, puisque les conseillers d'Obama se sont mis à parler, c'est que c'est plutôt, la décision de non-intervention est plutôt liée à une crainte d'Obama d'avoir des problèmes avec le Congrès américain, notamment le Sénat américain. C'est ça qui a bloqué Obama. Et ensuite, il a demandé aux Russes d'intervenir pour assurer qu'il y ait un désarmement chimique de la Syrie. Ce dont on savait fondamentalement. Et ça, maintenant, c'est très clair. Bon, Ben Rhodes l'a dit après, enfin, un des conseillers d'Obama l'a dit après. C'était la liquidation de l'insurrection syrienne qui était décidée par Obama, donc en septembre 13. Mais pour revenir aux affaires afghanes, On est donc dans une situation où vous n'avez plus aujourd'hui de pression particulière sur les décideurs américains ou occidentaux en général pour tout ce qui concerne les droits de l'homme. Il peut se passer n'importe quoi en Afghanistan, personne ne bougera. Voilà, je pense que ça, c'est important dans la décision de Trump.
Gilles de Ronsoro, vous parliez de la Russie à l'instant, la Russie qui connaît bien l'Afghanistan, puisqu'il y a un peu plus de 40 ans, Moscou aussi s'était engagé dans un conflit qu'elle quittera une décennie plus tard après avoir été, elle aussi, mise en déroute, disons-le comme ça.
L'armée rouge quitte l'Afghanistan. Et cette fois-ci, ce n'est pas un retrait symbolique, comme en octobre 86. Ces hommes ont quitté ce matin la garnison stratégique de Jalalabad, sur la route entre le Pakistan et Kaboul. Sur le bord de cette route, comme un résumé de la situation qu'ils laissent. D'abord l'apparence, des enfants mobilisés par le régime pour les saluer, puis l'armée afghane, moins enthousiaste, puisqu'elle devra affronter seule les attaques des moudjahidines, enfin des villages en ruine, leur rappelant qu'ils laissent derrière eux 1 200 000 victimes, la plupart des civils, tués lors de bombardements, dans un pays déserté par la moitié de sa population. Honneur à notre patrie et à notre mission internationaliste, clame cet officier soviétique.
Voilà, archive de mai 1988, Gilles de Ronsoro. C'est toujours intéressant de regarder un petit peu le passé, regarder comment ça s'était passé précisément pour les Russes. Est-ce que finalement... Bon, il y a deux questions. Pourquoi les Russes aussi ont échoué à l'époque? Ils avaient quand même une armée qui était considérable, extrêmement puissante. Pourquoi ont-ils échoué? Est-ce qu'au fond, les erreurs commises par les Américains ne sont qu'une répétition de celles déjà commises à l'époque par les Soviétiques?
Alors, les Soviétiques ont échoué pour différentes raisons. Peut-être ce qui nous intéresse ici, c'est de mentionner que c'est à peu près le schéma inverse des Américains. C'est-à-dire que les Soviétiques avaient une logistique, mais désastreuse. Moi, j'ai vécu la dernière année et je vois bien, enfin à Herat notamment, la logistique soviétique était vraiment un désastre, y compris pour les hélicoptères. Enfin bon, il y avait un vrai problème d'organisation militaire. Et la deuxième chose, c'est qu'ils avaient une bonne stratégie. C'est-à-dire qu'ils ont su notamment sécuriser les villes, ils avaient vraiment compris comment ça fonctionnait, parce que le KGB était une organisation efficace de ce point de vue-là. Donc ils avaient un vrai plan, et finalement ça aurait pu jusqu'à un certain point fonctionner. Bon, c'est l'inverse des Américains, qui ont une très bonne logistique et pas de stratégie. La deuxième chose, c'est qu'il y avait un appui massif des pays occidentaux. C'est-à-dire qu'on est entre les pays du Golfe, qui ont été des gros financeurs, les pays occidentaux à peu près à équivalent, on a 2-3 milliards de dollars qui ont été déversés sur l'Afghanistan. Alors le Pakistan en a pris une partie, mais il reste que quand même les groupes de la professionnalisation des groupes de Moudjahidine à partir des années 86-87, l'armement, enfin vous voyez au niveau de l'armement, de l'entraînement, il y a eu véritablement une pression occidentale très forte. Hein. On leur a fait payer le Vietnam, quoi. Là, il n'y a pas de problème. Donc aujourd'hui, on peut en tirer deux leçons. Premièrement, c'est que le risque, c'est de laisser un régime, c'est ce qui est arrivé au régime communiste donc après 92, non financé, qui va s'effondrer. Et la deuxième chose, c'est que les régimes s'effondrent beaucoup par des problèmes intérieurs plus que par une pression militaire directe. Et c'est ce qu'on peut voir en Afghanistan, puisque on est en pleine élection hein, en Afghanistan aujourd'hui. Et ce qu'on voit, c'est que même les résultats du premier tour sont toujours en attente pour des raisons évidentes, c'est-à-dire qu'ils sont en train de négocier les résultats.
Rappelons juste en quelques mots qu'il y a eu un scrutin donc il y a trois semaines, et qu'on attend toujours les résultats. Ashraf Ghani et son rival Abdullah sont en train de se disputer pour savoir qui l'a emporté. Si on reste sur la Syrie, sur la Russie, Gilles de Ronsoro, est-ce qu'il faut s'attendre à ce que précisément, comme en Syrie, Moscou tire un bénéfice du désengagement américain? Si on revient un peu en arrière, de la même manière, à l'époque de l'URSS, les liens avant l'invasion soviétique, les liens entre l'URSS et l'Afghanistan étaient excellents, c'était le premier partenaire commercial, ça fonctionnait très bien. Est-ce qu'en réalité, ce désengagement américain, il pourrait annoncer le retour de cette période dorée entre l'Afghanistan et la Russie? Parce que là aussi, il faut dire qu'on a parlé tout à l'heure de pourparlers. Il y a aussi des discussions organisées par la Russie avec les talibans.
Oui, mais si les talibans conquièrent le pouvoir, ce qui est possible, pas certain, mais possible, c'est d'abord les Pakistanais, au moins dans un premier temps, qui essaient d'en tirer les bénéfices. Et derrière les Pakistanais, il y a les Chinois. Donc le vrai jeu stratégique, il est chinois. Les Chinois ont déjà pris des options sur les matières premières en Afghanistan. Ils ont une stratégie de pénétration d'abord économique. Ils s'intéressent pas tellement à ce que les régimes font à l'interne. Donc ils traiteront avec les talibans comme ils traiteront avec n'importe quel régime autoritaire. Les Russes, eux, sont désavantagés en un sens parce qu'ils ont moins à offrir en matière d'investissement et parce qu'ils contrôlent plus comme avant, même si au Tadjikistan, de facto, ils contrôlent encore un peu la frontière, mais ils contrôlent plus la frontière comme ils le contrôlaient avant. C'est-à-dire l'Ouzbékistan, le Turkménistan, etc., sont quand même des États indépendants. Ils ont moins de moyens de pression directe. Donc, je crois que ce qui est central pour les Russes, c'est l'humiliation américaine. On n'est pas en Syrie. En Syrie, les Russes vont véritablement et sont en train de marquer des points décisifs. En Afghanistan, moi, je pense qu'on est plus dans l'ordre du symbolique. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est une défaite majeure des pays occidentaux de l'OTAN. C'est le premier conflit dans lequel l'OTAN a été engagé comme tel. Et c'est une catastrophe. Ça veut dire beaucoup de choses sur le fonctionnement interne de l'OTAN, sur l'incapacité à définir des stratégies. Ça veut dire des choses. De la même façon que l'échec soviétique en Afghanistan avait beaucoup contribué à faire éclater cette espèce de bulle d'angoisse sur l'invasion de l'armée rouge. En fait, le pacte de Varsovie, ça ne fonctionnait pas. Ça ne fonctionnait pas très bien. Logistiquement, c'était une catastrophe. De la même façon, on se rend compte que l'OTAN, c'est logistiquement une merveille et c'est totalement incapable de monter une stratégie fonctionnelle. Donc voilà. Et moi, à mon avis, ça se voit dans tout le Moyen-Orient. Il y a une perte de crédibilité majeure. À mon avis, c'est ça. Pour les Russes, c'est ça, l'Afghanistan. La démonstration que...
Mais les vrais gagnants, plutôt les Chinois.
Sur le long terme,
les Indiens. Les Indiens, parce qu'eux aussi, ils sont très présents sur place. Alors, ça se voit peut-être moins. Mais enfin, ils sont très présents. Est-ce qu'ils vont laisser Pékin tirer les bénéfices de tout ça, et en particulier du désengagement américain?
Alors là, on est devant devant un conflit structurel absolument indépassable, semble-t-il, enfin depuis des décennies. C'est le conflit entre l'Inde et le Pakistan. Ouais. Donc, tous les mouvements indiens en Afghanistan sont perçus comme des provocations du Pakistan. Donc, si les talibans gagnent, je pense que la première demande pakistanaise, ça va être la fermeture de tous les consulats indiens, parce qu'une des expressions de cette avancée des intérêts indiens, ça a été l'ouverture de consulats. Donc, je pense qu'on là, on va avoir des tensions très fortes.
Merci beaucoup, Gilles de Ronsereau, d'avoir été avec nous ce matin. On va poursuivre, évidemment, nos interrogations sur l'Afghanistan et accueillir un nouvel invité, Michael Barry.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Michael Barry est historien, ethnologue, professeur à l'université américaine de Kaboul, auteur notamment d'un ouvrage de référence intitulé « Le royaume de l'insolence ». Il était de passage vendredi, Michael Barry, à Paris. On en a profité pour l'interroger. On va évoquer avec lui cette question du désengagement. Et première question assez générale, assez globale que j'ai posée à Michael Barry, mais vous allez voir, on va détailler, rentrer justement dans les complexités de ce dossier. Pourquoi les Américains ont échoué en Afghanistan? Réponse de Michael Barry.
D'abord, les Américains ont échoué parce qu'ils ont toujours considéré l'Afghanistan comme étant une gêne, une irritation, une réalité négative dont il fallait, pour ainsi dire, se débarrasser au plus vite pour passer à des objectifs qui les intéressaient beaucoup plus. Donc, ils n'ont jamais véritablement consenti l'effort maximal pour arracher le pays à son sous-développement. Ils ont toujours voulu traiter l'Afghanistan comme étant une considération secondaire, et c'est illustré notamment par le fait qu'à peine occupé Kaboul, à peine installé en Afghanistan après avoir renversé les talibans à la fin de 2001, dès 2003, les États-Unis envahissent l'Irak, qui était manifestement une cible infiniment plus importante pour eux que l'Afghanistan. L'Afghanistan a toujours été considéré par les Américains, je dirais même les plus érudits et les plus avertis de civilisation moyen-orientale, comme l'éternel pays secondaire, moins important que l'Arabie Saoudite, moins important que l'Iran, moins important que l'Irak, moins important que la Turquie, et surtout, en ce qui concerne Kaboul, moins important que le Pakistan.
Peut-être même arriéré, dites-vous. Vous dites par exemple que vous parliez de vos collègues universitaires persanophones qui visiblement ont un peu de moquerie à votre endroit concernant votre accent qui est un accent qui vient de l'Afghanistan, et ça montre peut-être une forme de condescendance, et ça montre aussi peut-être la représentation que l'on se fait aux États-Unis, y compris dans les milieux très bien informés, très cultivés, combien au fond cette représentation est un peu négative d'une certaine manière de l'Afghanistan.
Une représentation extrêmement négative, comme vous le dites. C'est vrai que je parle une des langues de l'Afghanistan, c'est-à-dire le persan, à peu près comme un naturel du pays, comme on disait autrefois en français. Je choisis de le parler avec l'accent de Kaboul parce que c'est là que je travaille. Je peux prendre l'accent iranien si je veux, mais depuis des décennies, je m'aperçois que mes collègues universitaires aux États-Unis s'étonnent même de m'entendre parler le persan avec l'accent de Kaboul, c'est-à-dire avec l'accent avec un accent irlandais, plutôt qu'avec l'accent de Téhéran, disons un accent de Londres. C'est une marque de mépris si profonde que même sous la plume d'un journaliste aussi libéral, aussi engagé dans des causes plutôt progressistes comme Thomas Friedman pour le New York Times, on a pu relever un éditorial écrit, je crois, vers la fin de l'année 2015, où il disait « Nous, les États-Unis, devons rester engagés en Irak, qui, après tout, est un pays qui a tellement fourni pour la civilisation mondiale, a commencé depuis la plus haute antiquité, alors que l'Afghanistan n'a rien contribué du tout. Ce qui est évidemment très blessant, cuisant même, mais qui reflète sur une sorte de pirouette, avec une sorte de pirouette verbale, un choix qui remonte déjà à 1953, où là, comme ailleurs, le retrait britannique de la fin des années 40 avait laissé un différent frontalier, en l'occurrence entre l'Afghanistan et le Pakistan. Les États-Unis, en 1953, ont pris fait et cause pour le Pakistan, qu'ils voulaient absolument attirer dans la grande alliance qui faisait pendant à l'OTAN, dans la région moyenne-orientale.
Qui s'inscrivait dans cette logique d'endiguement.
L'endiguement. Vous avez parfaitement raison, c'est le mot « endiguer la poussée soviétique » au Moyen-Orient, tout comme en Europe. Donc ça s'appelait la Central Treaty Organization, qui comprenait à l'époque la Turquie, l'Irak encore monarchique, l'Iran, le Pakistan. Et en 1953, le royaume neutraliste afghan a demandé lui aussi à adhérer à ce pacte, en espérant être protégé du Pakistan en se retrouvant dans une même alliance chapeautée par les Américains.
Et les États-Unis s'y sont opposés.
Les Américains ont dit non. Non seulement ils ont dit non, mais ils l'ont fait avec une maladresse si insigne qu'ils ont littéralement poussé l'Afghanistan dans le camp soviétique.
Michael Barry, quand on regarde l'histoire, quand on vous entend, et peut-être en particulier l'histoire récente, on voit bien que Islamabad n'a pas toujours été, c'est le moins qu'on puisse dire, un allié sur lequel Washington a pu compter. Il y a très souvent eu des déconvenues avec une armée pakistanaise qui jouait un double jeu, qui n'a pas hésité à protéger parfois des groupes terroristes hostiles aux États-Unis. Comment comprendre, compte tenu de cet élément-là, que les États-Unis précisément aient fait le choix du Pakistan plutôt que de l'Afghanistan? Et est-ce que, compte tenu précisément de ces trahisons pakistanaises à l'égard des États-Unis, est-ce qu'il est tout à fait fou d'imaginer une forme de retournement d'alliance et donc que de voir que finalement, alors peut-être pas tout de suite, mais que finalement les États-Unis choisissent plutôt l'Afghanistan?
Cela aurait pu être le cas en 2001 et ça n'a manifestement pas été le cas. Prenons la place pakistanaise sur l'échiquier moyen-oriental au sens vraiment large et une logique se fait jour. On peut dire que la grande région va de la Méditerranée à l'Indus et que tout ce qui affecte une partie de cette région affecte toutes les parties de la région. Le Pakistan était perçu dès le début des années 50 par les Américains comme étant le corridor menant des plus hautes montagnes d'Asie centrale, d'où l'on pouvait surplomber l'Asie centrale soviétique et chinoise, jusqu'à l'entrée du golfe Persique. Ce corridor avait été en quelque sorte proposé par les généraux britanniques lors de leur retrait du sous-continent en 1947, comme étant un espace stratégique où étaient situées la plupart des bases britanniques impériales, qui ont été en quelque sorte remises aux Américains, où les généraux britanniques avaient plaidé auprès des Américains, puisque de toute façon l'Inde du parti du Congrès balance vers le côté soviétique, il faut absolument maintenir le Pakistan, et le Pakistan, c'est ce qui est essentiel dans le système d'alliance occidentale. Donc déjà, il y avait un précédent stratégique extrêmement lourd. Deuxièmement, à partir du moment où le Pakistan est devenu formellement, en 1953, un allié américain, et que Moscou et New Delhi, ensemble, soutenaient les revendications territoriales de l'Afghanistan contre le Pakistan, les États-Unis se sont vus en quelque sorte en position de conforter ce que le Pakistan voyait comme une défense nécessaire de son intégrité territoriale telle qu'il la concevait, contre un Afghanistan plutôt philo-indien et philo-soviétique. Deuxièmement, le Pakistan, pour neutraliser cette menace afghane perçue, a mis en place une politique qui continue jusqu'à nos jours, mais qui à certains moments coïncidait avec les options stratégiques de Washington, puis les contrecarrés, puis de nouveau semblait les conforter, à savoir mettre en place à Kaboul un régime qui renoncerait aux revendications territoriales aux dépens du Pakistan et qui serait pour ainsi dire complètement inféodé aux intérêts pakistanais. Donc, pousser le radicalisme islamique sunnite. Numéro 2, à défaut de pouvoir installer un tel gouvernement à Kaboul, faire en sorte que Kaboul s'avère incapable de contrôler son propre territoire, l'affaiblir. Pour affaiblir Kaboul, jouer sur les divisions ethniques en appuyant une ethnie contre les autres, en l'occurrence les Pashtuns. Deuxièmement, jouer sur les différences sectaires, donc appuyer les sunnites, 80% contre les chiites, 20% et même, et là c'est très cruel ce que je vais dire, comme dans toute société, vous avez des hommes et des femmes, eh bien, au nom d'une certaine interprétation islamique, pousser la partie masculine contre la partie féminine pour la dégrader.
Michael Berry, si on revient à l'époque contemporaine et qu'on regarde ce qui s'est passé ces dernières semaines, il y a eu un moment où on a pensé qu'un accord entre l'administration américaine et les talibans était possible. Il y avait des discussions au Qatar, on n'était pas loin d'un accord, l'émissaire américain disait « ça y est, on y est presque » et puis finalement, il n'y a pas eu d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça n'a pas marché?
Au départ, il y avait une gêne à l'intérieur de l'administration américaine entre des généraux profondément conscient qu'un départ précipité d'Afghanistan, ou même un départ mesuré, pourrait entraîner la remise sur place d'un État islamiste abritant des formes de terrorisme international sous étiquettes diverses. Et ces généraux étaient absolument opposés à un tel retrait, surtout à la lumière du retrait précipité d'Irak sous l'administration Obama, qui avait entraîné le surgissement de l'État islamique. Donc les généraux américains étaient tout à fait contre ce retrait. D'autre part, certains des alliés les plus proches de M. Trump dans le Parti républicain, notamment le sénateur Lesley Graham, étaient absolument du côté des généraux. Trump, lui, le président Trump, voulait absolument opérer un retrait de l'un des théâtres moyen-orientaux pour pouvoir se prévaloir auprès de sa base électorale que j'ai tenu promesse et j'ai retiré mes troupes d'un des secteurs de ces guerres interminables du Moyen-Orient. N'ayant pu obtenir, à l'époque, il y a un an maintenant, un retrait immédiat de Syrie, et cela avait provoqué la démission du général Mattis, tellement l'opposition militaire était forte, eh bien Trump a demandé à son émissaire afghano-américain, Zalmay Khalilzad, d'opérer un retrait d'Afghanistan, malgré l'opposition des généraux. Et il semble bien que ce qui s'est passé au début du mois de septembre, c'est que devant cette hostilité, tant de ses généraux que de ses alliés républicains, devant un retrait américain d'Afghanistan, Trump se soit saisi du premier prétexte venu, un attentat taliban de plus, avec un soldat américain tué et un soldat roumain tué,
pour mettre un terme aux discussions.
Mais c'était, je crois, le prétexte attendu pour se sortir d'un mauvais pas qu'il a en fait renouvelé avec son retrait de Syrie du Nord-Est.
Michael Barry, vous étiez très récemment sur l'antenne de France Culture et au micro de Valérie Crova, justement, vous évoquiez l'influence de l'Iran, en tout cas, et vous considériez qu'aujourd'hui, le règlement du conflit en Afghanistan ne peut pas se faire sans le concours de l'Iran. Il y a deux choses sur lesquelles je voudrais vous entendre. C'est un, pourquoi est-ce que l'Iran vous semble aujourd'hui aussi incontournable dans le règlement du conflit afghan? Et la deuxième, c'est compte tenu évidemment des très mauvaises relations entretenues entre Téhéran et Washington, est-ce qu'on peut imaginer qu'effectivement Téhéran rentre dans ces négociations et que enfin on puisse trouver une solution politique à tout ça?
Le premier constat, c'est autant le Pakistan désire l'affaiblissement, voire la destruction de l'État afghan, comme visée stratégique fondamentale. Une visée qui a coïncidé avec ce que voulaient les Américains dans les années 80, tant que Kaboul était une plateforme communiste. Autant les intérêts américains profonds et les intérêts du Pakistan divergent. En revanche, l'Arabie Saoudite continue de soutenir un Pakistan qui veut tout faire pour soustraire l'Afghanistan à une influence iranienne, d'où la carte sunnite anti-chiite. En revanche, l'Iran est la grande puissance régionale, extrêmement stable, société extrêmement sophistiquée et avancée, et qui ne demande, dans ses couches profondes, dans l'immense majorité de ce qui constituerait son électorat, si son électorat était libre, de reprendre des relations commerciales et diplomatiques avec le monde occidental en général et avec les États-Unis en particulier. Dans les conversations que je peux avoir avec mes interlocuteurs américains de tous bords et de toute profession, tant militaire que politique, je mets l'accent sur le fait que Téhéran, contrairement à Islamabad, n'a pas intérêt à la destruction de l'État afghan. Car une destruction de l'État afghan aboutirait à des centaines de milliers de réfugiés chiites cherchant asile sur sol iranien, voire possibilité de contraindre le régime iranien à intervenir sur sol afghan de manière militaire. Donc c'est évidemment pas quelque chose que l'Iran veut. Au contraire...
D'autant que l'Iran n'a pas non plus une très bonne image des Afghans de façon générale. Vous parliez des Américains, mais les Afghans n'ont pas une très... Les Iraniens n'ont pas une très bonne image des Afghans. On n'aime pas beaucoup les voir chez eux.
Disons les choses, les plus stupides blagues belges qui se répercutent en France ont leur écho aggravé en Iran vis-à-vis de la population afghane. Ça, c'est... D'ailleurs, c'est à la honte des Iraniens, comme je dirais, les blagues belges sont à la honte de la France. Mépriser le second pays qui parle votre langue, ça ne m'a jamais paru particulièrement intelligent. Mais il reste que, aujourd'hui, on constate comme dans un miroir ensanglanté de ce que les États-Unis ont vécu dans les années 50 ou 60, où toute leur guerre avec bottes au sol, comme ils disent, boots on the ground, se situait sur le pourtour chinois, afin de contenir la Chine, de la Corée du Sud jusqu'au Vietnam du Sud. En revanche, depuis 1979, toutes les guerres ensanglantées des États-Unis se sont situées sur le pourtour iranien, avec un désir manifeste de contenir l'influence iranienne, que ce soit au Koweït, que ce soit en Irak, que ce soit en Afghanistan. C'est tout le pourtour. Or, on s'est aperçu que quand Nixon avait fait son voyage à Pékin en 1973, je crois, les tensions sur le pourtour de la Chine se sont apaisées. En revanche, je crois que tant que le différend entre Washington et l'Iran subsistera, toutes les régions qui entourent l'Iran, chacun à sa façon de ces pays, que ce soit Bahreïn, que ce soit le Yémen, que ce soit la Syrie, que ce soit l'Irak, que ce soit le Pakistan, que ce soit l'Afghanistan, toutes ces régions où vous avez des sunnites et des chiites en proportions différentes sont des pays dont la sociologie est en train de s'effriter, voire de s'effondrer. Donc la tension est générale et elle n'est pas propre qu'au seul théâtre afghan, même si chaque théâtre a sa spécificité.
Donc l'Iran sera la clé de toute façon. Peut-être un dernier mot, Michael Barry, sur la question de la démocratie, si vous voulez bien. L'intervention américaine, elle visait peut-être avant tout, en tout cas officiellement, de mettre en place la démocratie. Je me souviens, il y a quelques années, c'était il y a une dizaine d'années, en 2009, lors des élections présidentielles remportées par Karzai, j'interrogeais une spécialiste de l'Afghanistan, que vous connaissez peut-être d'ailleurs, qui s'appelle Mariam Abouzahab, qui est décédée il y a deux ans maintenant, qui était l'une des grandes orientalistes françaises connaisseuses de ce terrain-là, et je lui parlais donc des enjeux de la démocratie, du scrutin, etc., etc. Et puis à un moment, elle me coupe et elle me dit « Mais vous savez, la démocratie, les Afghans, ils n'en ont que faire. Ce qui les importe aujourd'hui, c'est la question de la sécurité, c'est commercer, c'est vivre tout simplement. La démocratie, c'est pas du tout une priorité. » 10 ans plus tard, aujourd'hui, est-ce que c'est important aujourd'hui, vous qui êtes baigné dans cette société afghane, et pas seulement à Kaboul, est-ce que la démocratie, c'est encore une préoccupation?
Si. L'Afghanistan a même un aspect démocratique, qui est celui de critiquer sans arrêt ses chefs en exigeant que les chefs produisent des largesses et se montrent généreux. Donc c'est en fait traditionnel et très ancré. Et aujourd'hui, vous constatez à Kaboul une liberté de presse et de parole qui est presque sans équivalent dans le reste de la région. Donc je dirais que les Afghans, en fait comme tout le monde, tiennent à la démocratie, comme ils tiennent à la sécurité, comme ils tiennent à un renouveau économique. Et là, j'ajouterais que le plus grand espoir de la démocratie, de la stabilité, du renouveau démocratique tient, et je me répète, à un accord entre Washington et Téhéran, puisque ce n'est que par l'ouverture de la frontière iranienne pleinement au commerce que l'Afghanistan, devenu trait d'union entre l'Asie centrale, ex-soviétique ou chinoise, et le port iranien de Chabahar, que l'Afghanistan retrouverait sa prospérité d'antan. Il faut remonter jusqu'au XVe siècle, quand il était au cœur des échanges de la route de la soie. Et toute cette région a sombré dans la stagnation économique la plus grave, en fait, depuis le XVIIe siècle, depuis la fin de la route de la soie, depuis son enclavement au cœur de l'Asie et la coupure de toutes les routes commerciales. Il faut les rouvrir. Mais la démocratie, elle, est vigoureuse.
Mais malheureusement, on n'y est pas. Aujourd'hui, on est plutôt dans une politique de fermeture et ce sont des murs qu'on construit entre l'Iran et l'Afghanistan aujourd'hui.
Ce sont des murs qu'on construit tout autour du pays et le pays, à l'intérieur de ces murs, s'asphyxie, s'étouffe, se débat et meurt.
بیا تا گل برافشانه ما مایی در ساغر اندازه فلک را سقف و بشکافه مترنا و در اندازه بیا تا گل برافشانه ما مایی در ساغر اندازه.
Voilà, c'était Michael Barry que j'interviewais vendredi, spécialement de passage en France. Je rappelle que Michael Barry est historien, ethnologue, professeur à l'université américaine de Kaboul, auteur notamment du Royaume de l'insolence qui était paru chez Flammarion dans les années 80, mais réédité assez récemment au début des années 2010, donc chez Flammarion, cet ouvrage véritablement de référence, le Royaume de l'insolence, pour toute personne qui cherche à comprendre l'histoire et la culture de ce pays. Un grand merci également à Gilles de Ronsoro qui était avec nous ce matin, qui nous a aidé à éclairer cette situation afghane extrêmement lourde. Professeur de sciences politiques à l'université de Paris 1, Panthéon Sorbonne, et co-auteur notamment, on y a fait référence tout à l'heure avec Adam Bachko et Arthur Kenney, de Syrie, anatomie d'une guerre civile. La Syrie, on en parlera cette semaine dans cette série consacrée à... au désengagement, de l'intervention des engagements, la double peine. Demain, nous parlerons de l'Irak. Mais pour l'heure, nous allons retrouver Brice Couturier et le tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Et c'est précisément votre sujet ce matin. Que dit-on dans le monde du retrait américain de Syrie ?
La décision précipitée du président Donald Trump de retirer les troupes américaines de Syrie, dégageant la voie à une offensive turque contre les Kurdes, constitue la trahison déraisonnable d'un allié stratégique. Une telle malhonnêteté, on aurait pu l'attendre d'un régime fasciste ou dictatorial, et pourtant ce sont les États-Unis, leader mondial, doté, paraît-il, d'idéaux élevés, qui ont ainsi émergé comme empire de perfidie. Ainsi commence une tribune de Shlomo Ben-Ami, l'ancien ministre israélien des Affaires étrangères et intellectuel de notoriété internationale sur le site Project Syndicate. Trump est en train de mettre en pièces, dit-il, tout le réseau d'alliances politiques et militaires patiemment mis en place par ses prédécesseurs. Il déclare la guerre commerciale à ses alliés européens. Il dit se laver les mains du retour en Europe des djihadistes de Daesh, jusqu'à présent gardés par les forces kurdes de l'YPG. Bon, ils vont s'échapper vers l'Europe, c'est là qu'ils veulent aller, ils veulent rentrer chez eux, a-t-il déclaré lors d'une récente conférence de presse. Résultat, les alliés des États-Unis sont amenés à des révisions déchirantes. L'Inde se tourne vers la Chine et la Russie. La Corée du Sud, constatant que Washington a perdu tout intérêt pour empêcher le petit Rocketman de se doter d'un arsenal nucléaire, envisage des concessions à son dangereux voisin. Taïwan, qui se sent abandonnée, va être contrainte de se rapprocher de la Chine continentale. L'Arabie Saoudite, consciente du peu de valeur de l'alliance américaine, entame des négociations urgentes avec l'Iran qui lui fait si peur. C'est peu dire que les commentateurs condamnent, dans leur très grande majorité, l'abandon des alliés kurdes par le locataire de la Maison-Blanche. Les critiques indignées ne proviennent pas seulement de l'opposition démocrate ou des ex-néoconservateurs, non. Un diplomate aussi réputé que Richard Haass, ancien membre important de l'administration de George W. Bush et aujourd'hui président d'un des principaux think tanks américains, le Council on Foreign Relations, juge l'abandon des Kurdes catastrophique parce qu'il renforce encore une fois les doutes que pouvaient nourrir les alliés des Américains à travers le monde sur la fiabilité de leurs partenaires.
Mais alors Brice, qu'est-ce qui a poussé Donald Trump à prendre cette décision de retrait ?
À l'approche de la campagne électorale présidentielle, Trump tient à être perçu par une opinion américaine lasse, c'est vrai, des aventures militaires extérieures, comme ayant tenu sa promesse de ramener les militaires dans leur foyer. Mais il se trompe lourdement lorsqu'il déclare que les États-Unis étaient, au Moyen-Orient, empêtrés dans une guerre sans fin. Ce que faisaient les États-Unis dans le nord de la Syrie était intelligent et efficace, poursuit Haass. Ils se contentaient de fournir aux forces kurdes un soutien logistique, de l'entraînement et de l'information. Mais la seule présence d'un millier de soldats américains sur place suffisait à dissuader les Turcs, les Syriens, les Russes ou les Iraniens de s'attaquer au territoire ainsi gagné par les Kurdes et leurs alliés arabes sur le soi-disant État islamique. Le problème, souligne Haass, c'est que, comme souvent, Trump apparaît en phase avec une très grande partie de l'opinion américaine. Beaucoup d'électeurs ont été séduits par son précédent slogan de campagne « America First ». Ils estiment que les besoins de leur pays dans les domaines de la santé, de l'éducation ou du logement ont été, dans le passé, sacrifiés aux besoins de financement de guerres lointaines qui n'ont apporté que des ennuis. Une vague isolationniste traverse à présent les États-Unis et c'est sur elle que Trump entend surfer pour obtenir sa réélection. Mais l'histoire nous apprend, poursuit Haass, que les périodes de repli sur soi finissent souvent par des chocs violents qui obligent les États-Unis à se lancer dans de nouvelles odyssées risquées. Croire qu'il suffit de se retrancher dans la citadelle Amérique pour éviter les périls du monde est une illusion. Les attentats du World Trade Center et du Pentagone devraient avoir servi de leçon. Ce désastre diplomatique, selon Carl Bildt, diplomate renommé et ancien Premier ministre de Suède, pourrait figurer, je cite, « au livre des records ». Mais son origine remonte bien avant que Trump mette en application la désastreuse décision de retrait qu'il avait déjà annoncée, c'est vrai, en décembre dernier. Les États-Unis avaient été incapables de fixer une ligne politique cohérente sur l'avenir du nord-est syrien libéré par les forces démocratiques syriennes. Les responsables de la diplomatie américaine passaient leur temps à tenter de donner une apparence de cohérence à une politique étrangère improvisée par le président Trump à coups de tweets. Les Européens, qui avaient misé sur le renversement du régime sanguinaire de Bachar el-Assad, comme d'ailleurs la Turquie d'Erdogan, peuvent renoncer au rêve d'une Syrie démocratique. Ce sont les Russes, les Iraniens et les Turcs qui vont régler entre eux l'avenir de la Syrie. L'Europe est aux abonnés absents. Elle n'a encore rien compris au XXIe siècle.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. Donc je redis, nous parlerons dans cette série précisément de la Syrie, ça sera mercredi. Mais pour l'heure, dans un très court instant, c'est Olivia Gesbert et La Grande Table.